Pendant une semaine, toutes les nuits, Elisa relisait la lettre, puis la lecture n'avait plus lieu qu'en des temps éloignés. Enfin, la prisonnière oubliait dans son matelas le papier écrit avec du sang. Une nuit, cependant, au bout de quelques mois, elle retirait l'épître amoureuse de sa cachette, mais cette fois sans la baiser, ainsi qu'elle avait toujours l'habitude de le faire avant de la lire. Elle la retournait près d'un grand quart d'heure entre ses doigts. Chez la femme semblait se livrer un combat au milieu duquel elle déchirait la lettre, la mettait en morceaux longuement, en tout petits morceaux, comme si elle se complaisait à cette destruction. Dans le néant et le vide d'un cœur en prison, une instinctivité tendre et sans emploi de sa tendresse, à défaut d'autre affection, ressuscitant en Elisa le petit homme chéri, l'avait fait tout à coup se retourner vers son passé d'amour, se réfugier un moment dans la douceur posthume du seul bon rappel qui lui fut resté de la vie. Cela avait duré quelques heures, mais cela avait été tout. L'amant appelé par la pensée d'Elisa, combien de temps l'avait-elle revu avec son bon visage, ses yeux caressants, ses gentils gestes, tout ce qu'elle avait aimé dans l'homme aimé? Tout de suite, son évocation l'avait menée au cimetière d'Auteuil. Tout de suite, elle avait eu devant elle l'assassiné, avec ce rire dans lequel l'agonie avait mis quelque chose qui était si peu de lui. Ainsi, les gens qui ont perdu un être cher, mort fou, et que les rêves ne leur remontrant jamais que dans sa fureur ou dans sa dégradation de créature intelligente, supplient la nuit de ne plus rapporter l'image désespérante. Ainsi Elisa repoussait maintenant l'image adorée qui lui devenait à la longue antipathique, cruelle, odieuse. Un jour arrivait même où Elisa se mettait à s'irriter contre ce qui, malgré tous ses efforts pour oublier, restait et demeurait en elle de ce mort qui était au fond la cause de tout son malheur. Alors le souvenir de son amant, brutalement repoussé par la détenue chaque fois qu'il remontait à son cœur, était rejeté sans un attendrissement, sans un regret, sans un remords, au fond d'une mémoire qui se faisait de marbre. Elisa avait espéré avec le temps s'habituer au mutisme, ne plus souffrir de la privation de la parole. Mais au bout d'années passées en prison, elle avait le même besoin de parler qu'au premier jour. Il lui semblait même que ce long silence avait mis au fond de sa gorge quelque chose de furieux, d'exaspéré, et que toutes les paroles ravalées par elle voulaient, par moments, sortir dans un long aboiement furieux. Ne pouvant parler, parfois elle ne pouvait résister à se donner le semblant de la parole, à construire avec des lèvres et une langue aphone des phrases qu'elle ne s'entendait pas mais se sentait dire. Elle faisait cela, le linge qu'elle cousait tout rapprochait de son visage, prête à étouffer dans sa bouche un mot devenant imprudemment sonore. Mais un jour, ce parlage incomplet ne la satisfit pas. Comme si, chez elle, la poche aux paroles crevait, ou plutôt comme si elle voulait s'assurer si elle avait encore dans le cou cela qui fait des sons humains, au milieu de l'étonnement de la salle de travail qu'il a cru attaquer de folie, Elisa se mettait à jeter des mots, des phrases sans suite, des sonorités retentissantes, et se dérouillant tout à l'aise le gosier, en dépit des objurgations de la sœur, continuait à monologuer tout haut, jusqu'à ce qu'on entraîna hors de la salle la prisonnière, grisée par le bruit de sa bouche, et laissant derrière elle, au milieu du silence continu, l'écho long à mourir de ce verbe entré tout à coup en révolte. Sa mère, Elisa, ne l'avait pas revue depuis la fuite de la chapelle. Si, elle l'avait revue une fois seulement et de loin, lorsque la mère de l'assassine était venue déposer à la cour d'assises. Dans le passé, on le sait, il n'y avait pas eu une grande tendresse chez la fille pour cette mère qui lui avait fait peur et peine pendant toute son enfance. Cependant, depuis, dans l'isolement sur la terre de l'être en prison à tout jamais, ce qui reste comprimé d'affectueux dans tout cœur humain allait vers la vieille femme. Elisa aurait voulu en recevoir des nouvelles. Plusieurs fois, elle lui avait écrit. Les lettres écrites à sa mère n'avaient pas obtenu plus de réponses que les lettres écrites aux autres. Aussi la détenue fut-elle fort surprise quand on lui annonça que sa mère l'attendait au parloir. Le parloir d'une maison centrale se compose de trois cages, ou plutôt de trois grands garde-manger grillagés de fer et soudés l'un à l'autre. Dans celui de droite, on met les parents. Dans celui du milieu est assise une sœur sur une chaise de paille avec un dévidoir. Et dans celui de gauche, il y a la détenue. Ni baiser, ni serrement de main. Des paroles, des confidences, des effusions arrêtées par la présence de cette surveillance immobile et glacée. Des regards séparés par la largeur d'un couloir et brisés par un double treillis de fer. Une entrevue où le bonheur de se voir, de se retrouver, ne peut se témoigner par une caresse, par une étreinte émue, par des lèvres posées sur une chère parente ou amie. C'était bien sa mère. Les tribulations de la vie avaient mis dans les restes de sa beauté une implacable dureté. On eût dit une sibylle sous la palatine d'une femme de la halle. Une petite fille était à côté d'elle. « Mais vraiment, ta bonne figure, oh, mais c'est chouette. T'as trouvé le moyen d'engraisser tout plein. Ah, oh, ça me fait bien de la satisfaction, là. Quoique tu m'en aies fait du tort, va dans mon commerce. » La mère d'Elisa s'interrompit pour dire entre ses jambes à la petite qui s'obstinait à se cacher la figure dans le creux de sa robe. « Allons, nigaude. Puisque je t'ai dit que c'était ta sœur, pourquoi que t'en as peur ?»« Ouais, c'est une petite que j'ai eue depuis toi, » fit en relevant la tête vers Elisa, sa mère. Et elle continua. « Tu me regardes pas rancune, hein, fillette, de t'avoir pas fait réponse. Tu sais, moi je suis pas de mon tempérament écrivain. » Là-dessus, fouillant dans une poche profonde où cliquetait un tas d'objets, elle en tira une queue de rat, puis elle prit longuement une prise, la prise de tabac des vieilles sages-femmes. « Maintenant, je vais te dire, je suis pas heureuse dans mon quartier. Tous les jours que le bon Dieu fait, on m'y cherche des contrariétés. Là-dessus, une pensionnaire que j'ai eue m'a dit comme ça que dans les Amériques, on n'était pas si contrariant. Tu comprends, fillette ?» Elisa comprenait. Elle pressentait dans la vie de sa mère de nouvelles manœuvres abortives, peut-être dans l'air des menaces de poursuite. « Alors, aïe, la boutique, » reprit la mère, « j'ai tout lavé, mes pauvres lits. Oh, tu sais, celui de la chambre jaune, celui que j'ai fait les billets à la vie. Ils m'ont coûté gros, cela. Oui, tout lavé, tout vendu, mais j'en ai pas encore assez pour aller si lointainement de l'argent. » Je me dis alors, l'enfant a bon cœur, et puis raisonnons un brin. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus agréable de son argent, puisqu'elle en a pour la vie? Elisa regardait sa mère avec des yeux douloureux. Dans le premier moment, elle avait cru bonnement que sa mère était venue pour la voir. Elle n'était venue que pour la dépouiller de son misérable petit pécule de prison. Eh ben, tu te dis rien. Tu refuses ta mère? Un enfant, madame la sœur, pour laquelle je me suis tué les sens. Les 6 francs pour m'acheter ma bière quand ce sera fini. Je veux pas que les autres se cotisent pour moi. Ouais, oh, c'est tout ce qu'il me faut. Le reste, je te l'enverrai, maman. Cela dit lentement, d'un coup de rein brusque, Elisa se leva de son banc pour mettre fin à la visite. « Oh, t'es une vraie fille !» s'écria la mère en joie. « Je répète, comme je l'ai dit aux jurés de malheur qui ont condamné mon enfant à mort. Elle est bien un peu bernoc, mais foncièrement, c'est un cœur d'or. » Et relevant d'une taloche la tête de la petite fille qui s'était renfoncée dans ses jupes, Eh, bijou, là, tout de suite, fais un beau serviteur à ta bonne sœur. Quand Elisa rentra dans la salle de travail, elle était très pâle. Depuis des années, quand elle souffrait encore, elle ne pâtissait plus guère que des duretés de la prison. Cette visite lui avait fait retrouver au fond d'elle de quoi souffrir à nouveau. Ce qui, dans un condamné, demeure haineusement debout contre la société, ce qui, en son apparente soumission, se soulève contre l'autorité, ce qui se rebelle en son silence, un jour, toute cette révolte intime et latente s'affaissa chez Elisa. Il y eut chez elle comme la démission de cette attitude hautaine et contemptrice qu'affiche tout d'abord le crime enfermé. La détenue était à bout de force. Elle se sentait vaincue. Elle s'avouait brisée par la force toute-puissante et toute destructive de la prison, par la compression de fer qui pesait sur elle en l'écrasant un peu plus tous les jours. Il n'y avait plus en elle l'étoffe d'une résistance morale. La bête, autrefois toute prête à se cabrer et à hennir, avait été lentement amenée à l'heure où, réduite et matée, elle cache, à l'approche du maître, sa tête entre ses quatre jambes qui tremblent. Elisa ne connaissait plus ces furieux moments pendant lesquels elle était obsédée de la tentation d'enfoncer ses ciseaux dans la poitrine de la prévôte qui lui en voulait. Une punition injuste, d'où qu'elle vînt, n'avait plus le pouvoir de faire monter à sa bouche l'ébauche de mots de colère, crevant sur ses lèvres muettes. On entendait maintenant, quand le directeur ou l'inspecteur lui faisait une observation, sa parole prendre la note menteusement pleurarde d'une voix qui implore. On voyait se baisser son œil dans un regard humble et faux, et toute sa tremblante personne s'envelopper de soumission vile et de bassesse abjecte. Cette hypocrisie, qui dans les premiers temps avait si fort révolté la prisonnière, cette hypocrisie qu'une inspectrice appelle la plaie des prisons, Elisa, elle aussi, était venue, comme les autres, mendiante aujourd'hui, dans la mort de tout orgueil humain, avec le mensonge de sa voix, de son regard, de sa tournure, l'adoucissement de son sort. Et comme c'est par la religion que vient cet adoucissement le plus souvent, et que le plus souvent se produisent les grâces, Elisa simulait la dévotion, se confessait à l'aumônier, communiait, cherchait à se faire bien voir des sœurs, tentait de s'approcher de la supérieure. La supérieure de la prison était une religieuse de 80 ans, au visage de cire, au front sillonné de rides rouges, de sang extravasé et qui paraissait comme un front sanglant. Sa pâle personne, son lent parler, son regard grisâtre et lointain, ses gestes découragés semblaient en faire une froide et tragique figure de la déception. Il y avait eu en effet dans sa longue vie tant de pertes d'illusions, tant d'avortements d'espérance et tant d'écroulements de rêves. Tant de détenus convertis, ramenés en prison 15 jours après leur sortie, que la vieille et sainte femme commençait à désespérer de la conversion de ce monde, qu'elle avait cependant le devoir de sauver. Elle ne croyait plus du tout à l'amendement des correctionnels, qu'elle appelait avec un mépris indéfinissable des traînardes, et n'avait guère tardé qu'un rien de confiance dans le repentir possible des criminels. Des grandes criminelles de celles qui avaient tué, et ne redoutait pas de dire sa douce bouche. Pour elle, l'éternité de la réclusion, mêlée à l'action religieuse pendant un nombre infini d'années, avait seule quelque chance de ramener sincèrement ces femmes à Dieu. Elisa avait tué, elle était condamnée à perpétuité. Elle réunissait donc toutes les conditions qui pouvaient intéresser, faire travailler la supérieure à son salut. Mais Elisa était une prostituée. Elle appartenait à une classe de femmes pour laquelle la supérieure, malgré ses efforts chrétiens, n'avait jamais pu surmonter un dégoût, une aversion, une répugnance, pour ainsi dire physique, qui se refusait presque à se laisser approcher de ces malheureuses. Le doute morne et désolé de la supérieure était chez l'aumônier un doute jovial incarné dans la verdissante vieillesse d'un prêtre bourguignon qui, depuis longtemps, tout digne homme du Seigneur qu'il était, avait fait gaillardement son deuil de la conversion des correctionnels et des criminels. « Toute pécheresse, affirmait-il, née et condamnée à mourir dans la peau de la perversité innée. » Pour ses ouailles, qu'il déclarait ainsi prédestinées à la damnation, l'aumônier n'avait au fond aucune répulsion, lui. Il s'en entretenait même avec un peu de cette parole paterne qu'ont les magistrats pour les notables gredins qu'ils envoient aux galères. Élisa tombait mal avec le clairvoyant bonhomme. Plusieurs fois, pendant ses petits sermons du dimanche, l'aumônier avait remarqué Élisa faisant sur le visage un moment attendri d'une compagne, rebrousser la contrition avec l'incrédulité d'un regard gouailleur. Ne se sentant ni aidée ni encouragée par la supérieure et l'aumônier, Élisa se rabattait sur les sœurs, avec lesquelles les habitudes de la prison la mettaient le plus souvent en rapport. Et peut-être, il faut le dire, cette comédie de religiosité, jouée dans un intérêt tout humain, serait-elle devenue une dévotion vraie si, en ce moment d'amollissement, Élisa avait trouvé autour d'elle un peu de tendresse spirituelle? Élisa n'avait jamais été impie. Elle avait toujours conservé, même dans son métier, des pratiques religieuses, ou au moins superstitieuses. Et le greffe de Noirlieu gardait la petite médaille de la Vierge qu'elle avait au cou lorsqu'elle avait été écrouée. Au fond, l'apparente affectation irreligieuse qu'avait surprise l'aumônier ne s'était témoignée chez Élisa que dans la maison de détention, et seulement parce que l'insoumise prisonnière trouvait là, dans la religion, l'auxiliaire de l'autorité. Cette tendresse qu'elle appelait Élisa ne la rencontra pas chez les sœurs. Vraiment, on ne peut demander à ces femmes d'élection de s'abandonner tout entière au crime, ainsi qu'elles s'abandonnent à la misère, à la maladie, à la douleur. Ce serait trop exigé de ces êtres purs, aux petits péchés véniels, de se rapprocher, de se confondre dans une intimité d'âme avec l'assassine, avec la voleuse, avec toutes les scélérates amenées en leur compagnie par les verdicts des tribunaux. Les sœurs peuvent bien donner à la garde, au soulagement matériel de ces créatures, leur force, leur santé, leur vie. Mais cela d'émus, d'attendris, de caressant à la manière d'une sœur en Dieu, cela qu'elles accordent à l'honnêteté pauvre et au malheur immérité, non! Il y a là quelque chose de défendu à la perfection terrestre de la religieuse. Supérieure, sœur, aumônier, sans repousser absolument Élisa, lui faisait sentir qu'on la savait dévotieuse dans le seul but d'être portée au tableau des grâces. Alors, Élisa éprouva comme une espèce d'endurcissement de son corps que semblait quitter la sensibilité. De tout temps très frileuse, souvent au dortoir par les nuits fraîches, elle avait un sentiment de froid. Elle n'eut plus froid. Puis les sensations produites par le contact brutal des choses et qui font mal ne lui parurent plus immédiates, mais lui firent l'effet de venir de loin et de la toucher à peine. Bientôt, l'indifférence de son corps pour tout, Élisa la retrouvait dans les mouvements de son âme. L'emprisonnement n'était plus guère pour la détenue une expiation. Sa cervelle perdait l'habitude de forger ces hasards impossibles qui promettent pendant une heure à l'imagination des prisonniers l'abréviation de leur temps de prison. Sa peine flottait dans sa pensée diffuse, sans que maintenant sa mémoire s'effrayât, se souvint peut-être de son éternité. Enfin, ce régime du silence, ce régime supplicient, elle commençait à s'y trouver comme dans le repos d'une vie, où il était permis à ses idées de paraisser dans du vague, dans du trouble, dans une sorte de lâche évanouissement, sans que sa parole ou celle des autres la retirât. C'était même pour elle un choc presque douloureux qu'une question adressée à l'improviste par le directeur et une gêne angoisseuse que la nécessité d'y répondre de suite. Aussi, Elisa avait-elle pris à la fin l'habitude de répondre par un marmottage, par un bruit de la gorge et des lèvres qui ne disaient rien. Dans le bienheureux et noir vide de sa tête, elle n'essayait même plus de faire remonter la lueur d'un souvenir. Se rappeler était pour Elisa un effort, une fatigue. La prison avait de grands escaliers à tournant rapide que les détenus en sabots descendaient 4 par 4 dans une dégringolade accélérée. Depuis quelque temps, Elisa avait à la fois peur du vide de l'escalier sous ses pieds et du tourbillonnement féminin dans son dos. En même temps que cette appréhension bizarre se déclarait, il lui venait au doigt une maladresse qui lui faisait tomber fréquemment les objets des mains. Elisa s'étonnait aussi un peu, elle, un estomac capricieux et dégoûté, qui bien des fois avait laissé sans y toucher sa pitance, de se voir manger tout ce qu'elle trouvait à manger avec une voracité animale. Le carreau du réfectoire, encore un peu humide du lavage du matin, luisait rouge et la lumière aigre d'une froide journée de printemps jouait crûment sur l'ocre frais des murailles et le blanc de chaux du plafond tout récemment repeint. C'était, jusqu'au fond de la salle éclairée, en écharpe à part de très grandes fenêtres, une double rangée de tables étroites dans la menuiserie desquelles entraient, se confondaient deux bancs très bas, pouvant soutenir chacun 5 détenus. Sur les tables, on voyait poser 10 écuelles de terre vernissée, d'où s'échappait une vapeur tournoyante. Au milieu s'élevait la cruche pansue des intérieurs laborieux et pauvres de Chardin, la cruche en terre, à la couverte rose de briques à la paillette de jour carrée. Ça et là brillaient à un certain nombre de places de petits ronds de fer blanc avec un numéro au milieu. Ces ronds de fer blanc étaient les bons de cantine, les bons qui permettaient à ces femmes nourries seulement de légumes toute la semaine et ne mangeant de la viande qu'une seule fois le dimanche, leur permettaient, sur l'argent de leur pécule, d'ajouter à leur ordinaire les mangeailles figurant sur un tableau accroché au fond du réfectoire. Ce tableau portait beurre frais, lait, fromage de Dumeux, Gruyère, Hollande, Bondon, Réglisse, Gomme, Arançon, Ragoût de mouton, composition du ragoût, viande, pommes de terre épluchées, carottes, navets, oignons, graisse, farine, sel et poivre nécessaires, 10-20. Au coup de 9 heures, les femmes annoncées d'avance par le claquement de leurs sabots dans les escaliers firent leur entrée tumultueusement dans une bousculade qui se pressait et se hâtait vers la nourriture avec la bruyance de mâchoires marchant à vide. 10 par 10, elles allèrent se placer à des tables qui avaient placardés à leur tête les numéros d'écrou et les noms des attablés. Dans la confusion de la prise de possession des places et l'enjambement des bancs, la sœur vit la main crochue d'Elisa retirer le bon de cantine d'une voisine et le placer devant elle. « Gourmande, dit la sœur, je vous ai vu et je crois que ce n'est pas la première fois. Vous êtes notée, je vous surveillerai dorénavant. » La main d'Elisa, avec la mauvaise humeur d'une main d'enfant obligée de lâcher une chose chipée, repoussa le numéro de cantine devant sa voisine. « Numéro 7999, approchez !» La détenue ne bougea pas. « Êtes-vous sourde, là-bas ? » Elisa se décida à se lever et se vautra à demi sur la barre, avec un air indifférent et ennuyé. La prisonnière se trouvait dans la salle appelée le prétoire de la justice, où avaient lieu tous les samedis les garanties, c'est-à-dire la confirmation au milieu d'un débat contradictoire des punitions demandées par la sœur dénonçante, transmises à la supérieure, prononcées par le directeur. Sur une estrade, le directeur, dans son fauteuil de président, avait à sa droite la supérieure et la sœur dénonçante, à sa gauche l'inspecteur et l'aumônier. Derrière les juges, les rideaux en calicot blanc, complètement fermés de trois grandes fenêtres, faisaient ténébreuse la salle, rendaient sévères les figures de ces femmes et de ces hommes assis à contre-jour. Les murs étaient tout nus, sans un tableau, sans une sculpture, sans un symbole de miséricorde qui fît espérer la coupable. En face du tribunal, la salle était coupée par une petite barrière en bois, et, passé la barrière, les prisonnières, notées pour être punies, se tenaient dans des poses bien sages sur un grand banc. Le directeur reprit. Voilà vol de bon de cantine, refus de travail. C'est tous les samedis la même chanson. Et qu'est-ce que vous dites ? Elisa ne disait rien. Interdiction du préau. Privation du régime gras le dimanche. C'est comme si on fouettait des hannetons à 6 liards le mille. Rien à de prise sur madame, t'es. Mais au fait, si on vous mettait à la demi-ration de pain sec, ne serait-ce point à votre avis, ma mère ? Fit le directeur en s'adressant à la supérieure. À cet appel du directeur, il y eut chez la supérieure un acquiescement insensible de son visage pâle, de son front sanglant. La demi-ration de pain sec, répéta le directeur en revenant à Elisa. Vous entendez, vous, qu'on dit une grosse mangeuse ? La demi-ration de pain sec, cela fait-il votre affaire ? Pas de réponse d'Elisa. Ainsi, c'est bien entendu, n'est-ce pas ? Il y a chez vous la volonté de résister à votre directeur. Pas de réponse d'Elisa. « Voyons, tête de bois, parlez, défendez-vous. Je veux que vous parliez, » s'écria d'une voix rageuse le directeur. Pas de réponse d'Elisa. « La perversité innée !» soupira le bien portant aumônier en faisant tourner ses pouces. « Alors, c'est un défi, pas vrai, numéro 7999. » Pas de réponse d'Elisa. Mais dites au moins que vous ne recommencerez pas. Mais vous verrez que la matine ne le dira pas. Elisa ne répondit pas plus que les autres fois. Ses yeux s'élevèrent seulement vers le directeur. Sa bouche se contracta dans une résolution de ne rien dire. Un nuage haineux passa sur son visage, et dans la femme que le tribunal avait sous les yeux, sembla se glisser un être stupide et méchant. « Moi, vous le savez, je suis pour les châtiments moraux, » jeta dans l'oreille de l'inspecteur le directeur exaspéré. « Mais il y a vraiment des moments où il faut reconnaître que les coups de fouet sur les épaules d'Aubert ont du bon. » Le directeur de la prison était un méridional d'une petitesse comique, un homoncule tout en barbe et en poils noirs, avec un crâne dénudé, fumant et suant, et qui ne pouvait supporter le contact d'un chapeau. Du lever du jour à la nuit, on rencontrait nu-tête l'infatigable petit homme dans les endroits où se préparaient les choses destinées à vêtir, à changer, à nourrir les détenus, surveillant, inspectant, contrôlant, soupesant, revendiquant avec une paternité rageuse et des jurons de la canebière, ce qui était, d'après le règlement, le bien et le droit de chaque prisonnière. Tout prêt à révolutionner la prison, à faire chasser l'entrepreneur pour un décilitre de légumes qui aurait manqué à la pitance d'une femme. Un directeur dont les pensées de la journée, les insomnies de la nuit, appartenaient à la détention, dont la vie tout entière était une revendication du bien-être matériel de ses détenus, dont la direction avait presque le caractère d'un apostolat laïque, et cependant, à certains moments, un directeur bien inhumain, un directeur doué de la férocité qui se développe chez un bourgeois systématique, pour peu qu'on contrarie l'unique idée logeant dans son crâne conique. Criminaliste de l'école américaine, disciple d'Auburn, le directeur de Noirlieu, croyait à l'amendement des détenus par le silence, les assez tristes résultats qu'il avait obtenus dans sa direction personnelle et la constatation par la statistique criminelle de l'accroissement de la récidive depuis une vingtaine d'années, tout aussi bien chez les femmes que chez les hommes, n'avait pu ébranler sa foi entêtée et l'amener à reconnaître les cruautés inutiles du moyen. Qu'une prisonnière n'eût pas sur le dos une brume de droguée ou de laine beige, n'eût pas dans le ventre la ration de pain et de soupe maigre. Voilà seulement ce dont à ses yeux une prisonnière pouvait souffrir. Tout le reste était de la croyonnade, selon son expression. Quant à la débilitation intellectuelle, incontestablement produite par cette pénalité, il déclarait, au milieu de beaucoup de bundiaux, que c'était une invention des médecins modernes, ajoutant que le silence continu était un bon petit recueillement hygiénique à l'âme et au corps. Mais le plus souvent, avec les dédains et les hauts le corps superbes d'une conviction d'économiste qui avait quelque chose d'absolu, de fanatique, il ne souffrait pas la discussion sur ce sujet, qui pour lui était un véritable article de foi. Il y avait même des jours où ce fantasque petit homme était disposé à voir, dans les infractions involontaires des détenus, une rébellion en règle contre ses idées personnelles, mélangée d'un rien d'irrespect pour l'exiguïté de son susceptible individu. Alors, le directeur de Noirlieu arrivait inconsciemment dans sa lutte avec une nature réfractaire au silence, à des sévérités, à des duretés, à des implacabilités qui, dans l'adoucissement de la pénalité moderne, faisait remonter un peu de la torture des temps anciens et donnait à la drôlatique colère du petit philanthrope monté sur ses ergots la silhouette d'un polichinelle vampire. À plusieurs mois de là, dans la même salle et devant les mêmes juges, Elisa était encore à la barre en son enfermement farouche et son mutisme indompté. Le directeur disait de sa petite voix musicale que la colère rendait plus marseillaise que d'ordinaire. « Toujours la même. Et pis que jamais, plus mauvaise diablesse chaque semaine. Oh, moi je ne vous ferai pas parler, la belle, je le sais. Mais avant d'employer les grands moyens, voyons si quelqu'une ne sera pas plus chanceuse que moi. » À cet appel, la supérieure, avec un accent sévère, s'adressa à Elisa. « Vous avez entendu, le directeur, vous commettriez le dernier, le plus punissable des actes de désobéissance, si à l'instant même vous ne témoigniez, par quelques paroles repentantes, le regret des fautes commises par vous en même temps que la volonté de ne plus en commettre à l'avenir. » Ici, la supérieure s'arrêta court, en voyant le peu d'effet que l'exorde de son nommé Lee produisait sur la détenue. Pendant que la supérieure parlait, l'inspecteur à la face nacrée de la nacre d'un hareng, un signe auquel se reconnaît une origine hollandaise et un placide descendant de la race primitive du Waterland, aplatissait à plusieurs fois de ses deux mains l'envolée rêche de ses cheveux roux. La supérieure se taisant, notre Hollandais, de sa bonne rude voix caressante, jeta à la femme en train d'être jugée. Allons, mon enfant, assez de mauvaises têtes comme cela. Autrefois, on était gentille. L'administration obtenait à peu près ce qu'elle désirait de toi. Mais qu'y a-t-il aujourd'hui dans ta fichue caboche? Que diable, tu sais bien qu'ici on ne punit pas pour le plaisir de punir. Voyons, Elisa, il faut qu'aujourd'hui nous vidions notre sac. Que tout de suite tu nous racontes pourquoi tu ne veux plus. Je veux, mais je ne peux pas, s'écria soudain dans le déchirement d'une voix désespérée Elisa, dont le corps était agité des pieds à la tête par une trépidation étrange. depuis que s'adressait à elle cette parole familière, amicale, et qui lui avait rappelé son nom. « Oh, si souvent, monsieur l'inspecteur, je vous le promets, oui, je le veux, mais je ne le peux pas !» Et cela jusqu'au moment où la femme fondit en larmes et où Sally Tanny, désolée, s'éteignit dans l'étouffement de longs sanglots spasmodiques. « Mais là-bas, c'est bientôt fini !» reprit le directeur, mis de mauvaise humeur par la visite d'un criminaliste anglais préparant une brochure contre le système Auburn. « Qu'est-ce que vous vous délibitez là? On peut tout ce qu'on veut, ne jouons pas plus longtemps le drame, s'il vous plaît. Et assez de pleurnicheries comme cela, nous verrons bien si un peu de réclusion solitaire, le directeur ne prononçait jamais le mot de cachot, vous rendra cette volonté si bien perdue. Ah, une autre, au numéro 9007 !» La séance terminée, la sœur dénonçante prenait le directeur à part et lui disait « Je ne sais pas, mais le numéro 7999 ne me paraît pas depuis quelque temps dans son état ordinaire. Je le trouve bizarre, singulier, ayant par moments comme des absences de bon sens. Je crois qu'il faudrait le faire examiner par le médecin de la prison. » « Idée excellente, t'es une vraie inspiration, ma sœur, » fit ironiquement le directeur. Avec cela que le docteur a la manie de vouloir trouver des folles dans toutes nos passeresseuses. Mais cependant, hasarda timidement la sœur, « Oh, ce sera fait, du moment que vous croyez. Moi, oh, je le sais, ici tout le monde me regarde comme un monsieur systématique, incrédule à l'évidence. » Et son regard se dirigea vers le dos de l'inspecteur. « Mais maintenant, c'est le directeur qui l'exige. Je veux et absolument que ce bon docteur fasse son rapport. » Le médecin de la prison écrivait à quelques jours de là, sur l'état d'Elisa, un rapport dans lequel il établissait que la détenue n'avait plus la perception nette et rapide des choses, qu'elle avait perdu la concentration de l'attention, qu'elle était soumise à des impulsions étrangères à sa volonté. Il appuyait sur les vols de bons de cantine, sur cette voracité tout à coup développée chez Elisa, un des prodromes de l'imbécilité. Il déclarait qu'elle n'était pas une aliénée, mais qu'elle ne possédait plus le degré ordinaire du libre arbitre et de la culpabilité. Il concluait enfin en demandant pour elle un relâchement de la sévérité du régime et un travail en rapport avec l'affaiblissement de ses facultés. Elisa quittait la salle de travail où depuis des années elle était occupée à la même place. On la faisait monter dans le haut du vieux bâtiment à la cordonnerie. Une grande pièce sombre au plafond enfumé, chauffée par un poêle en fonte dont le tuyau sortait par le carreau en tôle d'une fenêtre. Aux tablettes fixées au mur, pendillaient des détritus de choses. Par terre traînaient, au milieu de flaques d'eau, des bouts de fil dans du poussier de charbon de terre écrasé par les sabots. Une saleté inlavable, qui faisait contraste avec la sévère propreté du reste de la prison, était incrustée dans les murs, mettant une grande tache autour des prisonnières. Et dans l'atmosphère épaisse de ce lieu, les puanteurs du cuir se confondait avec l'odeur de la crasse d'une humanité qui ne se lave plus. D'un côté, sur des chaises, de l'autre sur des bancs, étaient réunies en deux troupes une soixantaine de vieilles femmes qui se tenaient l'une contre l'autre dans le rapprochement, le resserrement peureux de toutes petites écolières en classe. Quelques-unes de ces femmes, encore capables de travaux de cordonnerie, taillaient des empeignes de souliers. La plupart ourlaient des mouchoirs d'invalides. Beaucoup étaient occupés à des besognes qui ne demandent plus l'attention et le tact assuré des doigts d'une main, travaillant à l'épluchage du lin, à l'écharpillage des cordes, au délissage des chiffons. Les femmes de la cordonnerie, appelées dans le langage administratif des toquées, étaient de pauvres travailleuses. Quelques-unes, devant la tâche posée devant elles, Restait une partie de la journée, les bras croisés, les paupières battantes sur la dilatation de leurs pupilles. D'autres approchaient d'elle la besogne avec des mains raides et destructives, la tracassaient un moment, la mettaient en tapon, la repoussaient. La plupart, au bout d'un petit quart d'heure de travail qui faisait saillir les veines de leurs tempes, vaincus et incapables d'une application plus longue, se rejetaient en arrière avec un subit affaissement du corps sur leur chaise. Deux ou trois buvaient à petites gorgées de la tisane dégoulinante des deux coins de leur bouche, et la tisane bue demeurait des heures, penchée sur le gobelet à en regarder le fond. Parmi les plus âgés, une aïeule, les yeux cerclés de grosses besicles de fer, dans le jet rigide et inexorable d'une sculpture de parc, avait, du matin au soir, le menton posé entre ses deux mains, reposant sur ses coudes arc-boutés à la table. Près de la vieille, une détenue encore jeune, encore belle, d'une beauté molle et fondue dans une graisse blanche, les reins brisés et flasques, passait le jour entier, les deux bras tombés le long de ses hanches, à user le bout de ses doigts allant et venant contre le carreau de la salle. De temps en temps, la promenade de la sœur au milieu de ses créatures faisait reprendre quelques-unes pour quelques minutes le labeur interrompu, mais presque aussitôt elles retombaient dans leur pose de pierre. Dans la cordonnerie n'existait plus ce qui se faisait remarquer parmi les détenus de tout le bâtiment, la coquetterie du madras. Sur les cheveux dépassant malgré le règlement, un rien en dessous, la cotonnade à carreaux bleus ne s'enroulait plus avec la grâce, la correction proprette, l'adresse galante des cornettes des autres salles. Elle n'était plus le petit bout de toilette possible où survivait ce qui restait de la femme dans la prisonnière. Sur les vieilles et sur les jeunes, le mouchoir de tête se voyait posé de travers avec des cornes caricaturales qui disaient, déjà mort chez ces vivantes, le féminin désir de plaire. Mais chez ces malheureuses, que leur sexe semblait quitter, le spectacle douloureux, c'était le vague et le perdu des regards. L'absence des êtres du milieu où ils se trouvaient, l'étonnement des yeux revenant aux choses qui les entouraient, l'effort laborieux de l'attention, l'automatisme des gestes, enfin le vide des fronts sous lesquels on sentait le souvenir des vieux crimes vacillant dans les mémoires sombrées. Ces femmes n'étaient point encore tout à fait des folles, mais déjà elles étaient des imbéciles. La prison n'avait plus de châtiment pour leur paresse et voulait bien se contenter de l'à peu près cochonner et bousiller par ses doigts maladroits. Parfois, l'immobilité d'une de ces femmes se trouvait tout à coup secouée par une inquiétude de corps, un remuement inconscient, un soubresaut qui la faisait se lever, s'agiter un moment dans des gestes sans signification, puis se rasseoir. Souvent, dans un coin, montait subitement à une bouche un flot de mots désordonnés qu'une obscure réminiscence des punitions anciennes étouffait soudain en des gloussements craintifs. Chaque jour, lors de la tournée de l'inspecteur et de son passage dans la cordonnerie, une femme se levait, fiévreuse, repoussait à coups de poing les bras de ses compagnes qui voulaient la retenir, s'avançait vers l'homme de la prison, humble, et la poitrine tressautante. Alors, avec une voix pareille à la plainte qui parle tout haut dans un rêve, et avec des paroles sans suite, brisées par des silences anhélants, l'imbécile demandait audience. Elle se plaignait d'avoir été condamnée pour une autre. Elle réclamait de nouveaux juges. Sa vieille voix se mouillant à la fin des larmes d'une petite fille en pénitence. La cordonnerie avait dans la journée, selon l'expression de la prison, quatre mouvements des lieux. Quatre fois par jour, les détenus de la salle, ébranlant de leurs sabots les escaliers, apparaissaient avec leur appesantissement bestial, leur figure hagarde, la presse de leurs besoins physiques. Arrivés en bas, les femelles se satisfaisaient sans qu'il leur restât rien des pudeurs de la femme. Dans la cordonnerie, Elisa commença à descendre peu à peu tous les échelons de l'humanité qui mènent insensiblement une créature intelligente à l'animalité. De l'ourlage des mouchoirs à carreaux, elle fut bientôt renvoyée au délissage des chiffons. Enfin reconnue incapable de tout travail, elle passa ses journées dans une contemplation hébétée et un ruminement grognonnant. Alors, en cette tête d'une femme de 40 ans, il y eut comme la rentrée d'une cervelle de petite fille. Les impressions contenues et maîtrisées d'une grande personne cessèrent d'être en son pouvoir. Le dédain pour les choses du bas âge, elle ne l'eut plus. Chez elle, se refirent dans leur débordante effusion les petits bonheurs d'une bambine de 4 ans. Son vieux madras de tête avait-il été remplacé par un madras neuf? On la voyait tout éjouie, passer sa main à plusieurs reprises sur la cotonnade. On surprenait sa bouche formulant en un souffle qui s'enhardissait presque dans une parole « Beau ça !» Quelques dames charitables de la ville, en une année d'abondance, avaient-elle envoyé un panier de fruits pour le dessert des détenus? Devant les 4 ou 5 prunes posées dans l'assiette creuse, les yeux allumés de gourmandise, les lèvres humides et appétantes, elle battait des mains. Au milieu de cette reprise d'Elisa par les toutes premières sensations de la vie, un curieux phénomène se passait dans sa pauvre mémoire. Dans cette mémoire, jour par jour, des morceaux de son existence d'autrefois s'enfonçaient dans des pans de nuit et son passé tout entier, comme amputé et détaché de la prisonnière, s'en allait et se perdait parmi les espaces vides. Elisa avait oublié sa vie de la chapelle, sa vie de Bourlemont, sa vie de l'école militaire, sa vie de prison, sa vie d'hier. Puis, à mesure que s'effaçaient dans sa tête les souvenirs les plus récents, se levaient, s'avançaient les souvenirs anciens, les souvenirs d'une première enfance qu'elle avait passée loin de Paris, dans un village des Vosges, chez une sœur de sa mère. Et ainsi qu'il arrive quelquefois dans les dernières heures d'une agonie, les occupations, les distractions, les plaisirs, les jeux de cette enfance reprenaient avec leurs jeunes gestes et leurs gaminantes mimiques, reprenaient machinalement possession du vieux corps de la femme. Elle était dans la forêt de houx, à travers les bois, poussant leurs premières feuilles, elle était à la recherche des nids de resto, de ces tout petits oiseaux qui nichent entre les racines des arbres. Dans une bande de gamines, à la bouche et aux dents noires comme de l'encre, elle était au brimbelle, son panier de goûter déjà plein, et se riant et se moquant, et appelant chipanier celle dont le panier n'était qu'à moitié rempli du raisin des bois. Elle était aux écrevisses, les pieds nus dans de vieilles savates, heureuse et frissonnante de la fraîcheur de l'eau, et se bronchant, tous les 20 pas, la tête dans ces clairs ruisseaux qui avaient fait dire à l'enfant devant les eaux de la Marne, en arrivant à Paris, « Oh, comme il a dû pleuvoir ici !» Elle était à la veille, jouant aux gens, à la veillée, jouant aux gendarmes, jouant à la lavette, sa petite main prête et prompte, arroser de l'eau de la terrine la première qui riait des bêtises que toutes lui criaient au visage. Elle était en pèlerinage à la Vierge du Paquis, disant une neuvaine, le regard sur les flammes des trois bouts de cierge que les fillettes du village baptisent Saint-Maur, Saint-Languide, Saint-Revy. Elle était assise par terre dans la grande rue, près des maniens, des rétameurs italiens de passage dans la montagne, regardant toute la journée avec des yeux ravis le bel argent que ces hommes noirs mettaient au fond des vieux chaudrons. Elle était à Noël en portant dans ses petits bras, qui avaient peine à le porter, en portant son quenieux, le gâteau à cinq cornes que donnent ce jour dans les Vosges les parrains à leurs filleuls. Elle était par la neige dans le chemin du champ de la pierre, se laissant tomber tout de son long sur le dos, les bras en croix, amusée des beaux bons dieux qu'elle laissait derrière elle sur la moelle blancheur de la terre. Dans la grange au Cornudet, elle était devant Bamboche faisant sauter ses marionnettes, se demandant si, avec le sou de chiffon qu'elle achèterait à la Christine lors de la foire prochaine, elle pourrait faire sa poupée aussi pouponne que les poupées qui dansaient à la lueur des deux chandelles. Elle était le jour de la fête du village, avec son bonnet à fleurs, sa petite robe courte, ses souliers décolletés, ses bas blancs à jour, sur lesquels de larges rubans qu'on appelle des liasses, elle se rappelait encore leur nom, de larges rubans se croisaient, se nouaient dans une coquette rosette. Et toute glorieuse, au milieu du pays, rassemblée à la sortie de la messe dans l'ancien cimetière, elle faisait voir ses liasses, elle étalait ses grâces enfantines, elle détournait à demi sa figure des baisers qui voulaient embrasser sa jolie enfance, elle faisait son petit mignardon. Parmi le passé de son enfance, dans lequel vivait actuellement tout entière la vie de la détenue, il avait un souvenir persistant, habituel, quotidien, le souvenir du gai printemps de son village. Chez la malade et l'impotente, depuis que la perception des choses présentes devenait de jour en jour plus obtuse, les cerisiers du pays du Kirsch fleurissait au-dessus de sa tête dans un avril perpétuel. La prière matinale de la prison trouvait la prisonnière en marche à travers la floraison candide de la contrée où elle avait fait ses premiers pas. Déjà, elle courait sur cette terre au vert plein de marguerites, au bleu matutineux du ciel tramé de fils d'argent, au feuillage de fleurs blanches comme de blanches fleurs d'oranger. Elle s'avançait sous ces arbres, au milieu desquels le sautillement des oiseaux était tout noir, et qui apparaissait à la petite fille en leur virginale frondaison, ainsi qu'un bois d'arbres de la Bonne Vierge. Elle allait toujours par le paysage lumineux et souriant, et de toutes les branches de tous les arbres tombait incessamment une pluie de folioles, lentes à tomber, et arrivant à terre avec les balancements d'un vol de papillons dont elle semblait des ailes. À l'heure de midi, couchée à terre sous l'ombre légère des cimes fleurissantes, dans la tiédeur du temps, l'odeur sucrée des fleurs chauffées par le plein soleil, l'effleurement gazouillant des oiseaux, elle demeurait sans bouger, bien heureusement immobile, intérieurement charmée par cette blancheur qui pleuvait continuellement sur elle, chatouillant son visage, son cou, sa nudité d'enfant. Parfois des fleurs volotant au-dessus d'elle et qu'emportait un souffle du vent à la dérive, ces fleurs avec de gentils ronds de bras et des attirements de mains remuant l'air et faisant de petits tourbillons, elle les ramenait toutes tournoyantes sur son corps, passant ainsi la journée entière à se laisser ensevelir sous cette neige fleurie. Telle était l'illusion de la misérable femme qu'on la voyait avec les doigts gourds d'une main presque paralysée décrire des cercles maladroits dans le vide puant de la cordonnerie pour amener la chute sur elle des blanches fleurs des cerisiers du Val d'Ajol. Il y a des années, je passais quelques semaines dans un château des environs de Noirlieu. Un jour de désœuvrement, la société avait la curiosité d'aller visiter la maison de détention des femmes. On montait en voiture. C'était ce jour un triste et âpre jour d'automne. Sous un ciel gris, plein d'envolées noires, un fleuve pâle se traînait dans une plaine de craie, barré au ras de terre par un mur de nuages solides, fermant l'horizon avec les concrétions et le bouillonnement figé de masses pierreuses. Un paysage dont la platitude morne, l'étendue blafarde, la lumière écliptique, ressuscitait comme un morceau de la sombre Gaule, évoquait sous nos yeux le décor de chants cataloniques, ainsi que se les représente à l'heure des grandes tueries de peuple l'imagination moderne. Au bout d'un temps assez long, dans une froide éclaircie, apparut Noirlieu, avec sa double promenade sur les anciens remparts, son cimetière vert dévalant jusqu'au bas de la colline, son rond de danse aux ormes étêtés, le grand mur de sa maison de détention pour les femmes, flanqué à droite d'une maison de correction pour les jeunes détenus, flanqué à gauche d'une maison de fous. Nous descendions chez le sous-préfet, une connaissance du château. On nous faisait entrer dans un petit salon décoré de lithographies de Félon, encadré dans du palissandre. Sous un trophée de chasse, surmonté d'un chapeau tyrolien, une romance de Nadeau était posée sur un piano ouvert. Quelques instants après arrivait le sous-préfet. Il appartenait à la famille des sous-préfets folâtres. « C'est commode ici !» s'écria-t-il avec une intonation de comique du Palais Royal, tout en laissant tomber une signature sur un papier administratif. « C'est commode, très commode, infiniment commode !» La maison de fous à côté de la maison de détention. Les transferts sont d'une facilité. Puis, boutonnant le second bouton d'une paire de gants pris perles, il offrit le bras à une dame, avec la grâce contournée d'un danseur qui a gagné sa sous-préfecture en menant le cotillon à Paris. Nous allions quitter la maison quand le directeur insista près du sous-préfet pour nous faire visiter l'infirmerie. Nous entrâmes dans une salle où il y avait une douzaine de lits. 4% de mortalité, 4% seulement, oui, messieurs, répétait derrière nos dos le petit directeur avec une intonation allègre. Je m'étais arrêté devant un lit sur lequel une femme était étendue dans une de ces immobilités effrayantes qu'amènent les maladies de la moelle épinière. Au-dessus de la tête, son numéro d'écrou était cloué dans le plâtre, au milieu du tortil desséché d'un bras de bruit béni. Près du chevet se tenait debout une fille de salle, une détenue, qui, muette dans sa robe pénitentiaire, semblait le silence continu en faction près de la mort. « Celle-là, oh, une condamnée à la peine capitale, la fille Elisa, oh. » Une affaire d'assassinat qui a fait du bruit dans le temps. » Et la voix musicale et légèrement étayante du directeur reprit aussitôt : « Oui, 4% de mortalité. » Je regardais attentivement la femme au masque paralysé, aux yeux aveugles, et dont la bouche seule, encore vivante dans sa figure, tendait vers la garde des lèvres enflées de paroles qui avait à la fois comme envie et peur de sortir. « Mais, messieurs, m'écriai-je avec un peu de colère dans la voix, est-ce que même à l'agonie, vous ne permettez pas à vos prisonnières de parler ?»« Oh, messieurs, n'est-ce pas, cher directeur, que nous sommes plus élastiques que ça ?» fit d'un ton léger le sous-préfet, qui, s'adressant à la mourante, lui dit « Parlez, parlez tout à votre aise, brave femme !» La permission arrivait trop tard. Les sous-préfets n'ont pas le pouvoir de rendre la parole aux morts.